Bonjour à tous. En tant que géologue, j'ai l'habitude parfois de jargonner, enfin chacun des métiers, vous me direz le fait. J'essaierai de ne pas le faire trop ici et de parler un langage commun ou commun des mortels. J'espère aussi pour les traducteurs que ce ne sera pas trop compliqué. La problématique de l'utilisation des matériaux chez Horta s'inscrit évidemment dans un contexte traditionnel qui remonte certainement à l'époque médiévale et sans doute avant, et qui est lié au monde de la construction spécifique de la Belgique. On dispose de plusieurs ressources importantes, dont les principales sont des ressources en calcaire, et on distingue très globalement ce qu'on appelle pierre bleue de pierre blanche. Le terme n'est pas à prendre au sens littéral, les bleus ne sont pas bleus et les blanches ne sont pas blanches, vous allez le voir. Et on a en fait deux gammes de matériaux différentes par leur comportement et par leur qualité. Les pierres bleues sont plus compactes, sont plus dures, par conséquent sont plus chères. Les pierres blanches sont plus jeunes géologiquement, plus faciles à travailler, mais moins résistantes. Et on observe depuis toujours une économie de la construction avec une distribution qui est très parcimonieuse. Vous voyez, les pierres bleues sont utilisées pour les soubassements, pour les angles, pour les tours de baie, les endroits qui sont sollicités, alors que les pierres blanches sont en général réservées au remplissage. Et on trouve en fait à toutes les époques ce genre de mélange qui vous donne un aspect bichrome, gris et blanc cassé, plutôt dans la gamme des jaunes pâles ou des beiges très caractéristiques. Ici, une maison du XVIIIe siècle. Et donc, les œuvres principales d'Horta en contexte urbain vont s'inscrire dans ce paysage. Et à l'époque de la fin du XIXe siècle, les ressources principales en pierre blanche étaient Lorraine, en France, avec deux variétés principales, la pierre dite de Savonnières, que vous voyez ici en haut à droite, et la pierre dite de Ville, ici. Deux variétés qui sont issues du Jurassique, ce sont des terrains du secondaire, mais ce n'est pas très important, et qui se distinguent, comme vous le voyez, à la fois par la texture, par la structure, et aussi par la patine. La patine de Ville étant plutôt grise, la patine de Savonnières étant plutôt jaune. Euville est plus résistante, Savonnières l'est moins, Euville est plus chère, Leville l'est moins, et donc on va à nouveau les utiliser de façon raisonnée et raisonnable, parcimonieuse. Exemple type, non pas de Victor Horta, mais d'un de ses contemporains à peu de choses près, Victor Talmans, c'est la petite maison que vous voyez ici en fait, à droite, qui est dans le quartier des Squares, là où il y a d'autres réalisations d'Horta, et on voit très bien que les deux matériaux sont utilisés d'une façon très raisonnable. Donc voilà un arc de fenêtre, les claveaux sont en Neuville, alors que le reste de la façade est en Savonnières, et la porte, de même, s'inscrit dans la façade en Savonnières, et le vil est réservé uniquement aux éléments qui sont plus portants ou plus sollicités. Une vue rapprochée, ici, vous montre très bien la différence de texture, plus fermée, plus ouverte, et de couleur, un peu plus soutenue et un peu plus grise. Et une des premières maisons importante d'Horta s'inscrit dans un respect très strict de cette tradition. La maison Autrique, que vous voyez ici peu de temps après sa construction, que vous retrouvez ici il y a quelques années, alors attention au choc des photos, voilà la même après restauration, vous montre ce mélange très raisonné. Bon, je ne sais pas si on le voit mieux sur la patine, enfin patine et salissure sont des termes qui peuvent être discutés, ou sur ceci, mais le détail vous le montre bien. Donc, à nouveau, ici, pour la porte, vous voyez que cet élément de traverse est en Neuville, de même que tous les claveaux de l'arc, et que dès qu'on quitte l'arc, on passe dans Savonnières. Donc, c'est un emploi qui est guidé strictement pour des raisons techniques de résistance et pour des raisons, en même temps, d'économie au sens de coût de la réalisation. Et juste après, pour Tassel, on va voir en fait quelque chose de très différent, de très novateur. Vous connaissez tous Tassel, évidemment. Voilà une vue frontale de la chose. Et maintenant, vous avez déjà l'habitude de reconnaître les deux matériaux. Et vous voyez bien qu'il y a un peu de pierre bleue, pas beaucoup, sur le tour de la porte et ici en bas. Et toute une élévation en pierre blanche des deux variétés classiques. Au niveau de l'appareil, il faut remarquer qu'on a affaire à quelque chose qui est en grands éléments. Et on verra d'autres exemples de Horta qui vous montrent des façades avec un plus petit appareil, avec des éléments de plus petite dimension. Ici, on a quelque chose qui est relativement monumental comme composition. Et vous voyez, quand on regarde en détail, qu'il y a bien sûr toujours la raison, c'est-à-dire que les niveaux des appuis, des traverses et des linteaux sont en Neuville, pas de problème, que la savonnière est utilisée pour le reste, mais il y a par exemple ici un bandeau en Neuville qui n'a absolument aucune raison technique d'être là. Ça ne correspond pas à un endroit plus sollicité qu'un autre. Et donc, on peut se demander pourquoi, de même que par exemple ici, vous avez une composition où on a un tour en Neuville et un centre en savonnière. C'est une composition qui n'est évidemment dictée par aucun impératif technique. Et on peut se demander pourquoi, et l'intention est sans doute essentiellement décorative, un effet de rayure. Et ce qui est certain, c'est qu'elle était perceptible dès le départ. Les photos anciennes vous montrent bien, bon, c'est toujours difficile évidemment, mais vous voyez, je pense bien dans la zone d'ombre qui est ici, que les différences de matériaux étaient perceptibles. À peine, mais déjà intéressantes. On verra dans d'autres réalisations cet effet de rayure horizontale qui semble caractéristique. Et j'ai discuté récemment avec Françoise Aubry de ces choses-là, et elle me disait qu'il fallait peut-être revenir à un effet d'architecture traditionnelle. On trouve des rayures comme ça chez nous et dans d'autres régions, en Hollande et en Allemagne. C'est ce que les Allemands appellent Specklag, des couches de lard, donc pour des raisons qui sont à la fois esthétiques et techniques. On peut se demander, et c'est une des questions qui finira mon exposé, quelle était la finition de surface au départ de ces pierres, et si Horta avait prévu des finitions différentes, plus lisses et plus rugueuses, plus brillantes et plus mates éventuellement. C'est très difficile d'y répondre. Et voilà une toute autre gamme de matériaux, la maison Huissinger, avec une utilisation d'une pierre locale, la pierre de Gobertange, qui est en fait une pierre de petit appareil. Les bancs sont très limités et ne permettent que des éléments de la hauteur d'une brique. Et donc, bien qu'on ait une façade qui soit entièrement en pierre, vous voyez qu'il y a un effet beaucoup moins monumental que dans la construction, dans la conception de Tassel, et même d'Autrique. Et dans le cas d'une petite construction publique que vous connaissez tous, la petite école de la rue Saint-Guilain, on va trouver une utilisation à nouveau très raisonnée, mais très raffinée de ces matériaux. Voilà l'école en photo ancienne, et vous voyez très bien cet effet de rayure, très marqué. Et c'est un effet de rayure qui est très compliqué en termes de matière et de choix des matériaux. Alors vous voyez que, comme d'habitude, la pierre bleue est utilisée pour les parties basses, pour les tours de portes, tours de fenêtres, tours d'impostes en quelque sorte, mais on va retrouver des bandeaux en pierre bleue aussi dans les parties hautes, et on va trouver des mélanges un peu compliqués parce que dans le même bandeau, on passe de la pierre bleue à de la pierre de ville. Voilà une vue frontale, et vous voyez qu'il y a donc à la fois un mélange d'impératifs techniques, on utilise les bonnes pierres aux bons endroits, mais qu'il y a une recherche qui est par ailleurs purement esthétique lorsqu'on passe d'un bandeau, d'une pierre à l'autre. Et vous voyez que le fond est occupé en fait par cette fameuse pierre de Gobertange aux petites dimensions qui rappelle celle d'une brique. Voilà quelques images un peu difficiles, mais qui ont été prises pendant le chantier de restauration par Barbara Van der Rohe il y a quelques années. C'est pour ça qu'il y a en fait un peu de poussière, c'est du sable du nettoyage. Et vous voyez bien en fait qu'il y a à la fois une recherche technique, évidemment, de choix de matériaux, qu'il y a une recherche esthétique et aussi une recherche esthétique en termes de finition. En bas, la pierre bleue et la pierre de Gobertange sont ciselées. Donc on a des traces de surface qui sont des traces de ciseaux. C'est la finition traditionnelle des pierres de taille chez nous. Par ailleurs, le vil ne porte pas de traces. Et donc, elle était probablement au départ lissée avec un abrasif et peut-être soit un peu brillante ou au moins un peu satinée. Alors remarquez évidemment déjà le raffinement des courbes et du traitement de la pierre. Et on va trouver cette pratique de la rayure, comme les habits des prisonniers, hein, les bandes horizontales, dans la maison de Pré. C'est très visible ici au niveau du rez-de-chaussée. Et en plus des choses techniquement un peu compliquées, c'est que certaines des pierres vont être utilisées dans deux sens. Alors j'ai essayé d'agrandir un détail d'une photo ancienne, c'est un peu flou, mais je pense que vous voyez bien. Et donc ces pierres ont une stratification qui est marquée, et certaines des pierres sont utilisées avec le lit horizontal, d'autres avec le lit vertical. Ce sont des techniques qu'on pratique depuis toujours. C'est beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteux de mélanger des pierres horizontales et verticales que d'empiler des pierres horizontales les unes au-dessus des autres. On va plus vite, on gagne de la matière, et on a des choses plus minces. Et donc, quand on voit ce qui se passe derrière, les pierres horizontales ont ce qu'on appelle une queue plus profonde, c'est-à-dire que la dimension de la pierre est plus importante, alors que les pierres verticales sont beaucoup plus minces. Et donc, il y a à la fois une économie de moyens et une façon aussi de faire tenir le parement dans lame de brique. Et on retrouve dans cette fameuse maison de prêt non seulement les rayures, mais aussi un traitement extrêmement raffiné de la modénature, avec des courbes et contre-courbes, avec la transition des matériaux, comme vous voyez bien ici, et des choses très simples, comme ici. Et imaginez la difficulté de tailler les pierres pour faire mourir les modénatures, pour faire mourir les moulures d'une façon très très souple dans le parement plat. Ensuite, on passe chronologiquement à des choses qui font appel plus généralement à la pierre bleue. Et une des maisons importantes, avenue Bruckmann, du bois, est entièrement construite pour la façade en pierre bleue. On a conservé les détails d'appareillage, et vous voyez des choses très raffinées, comme par exemple ces arcs avec des crossettes et avec des dispositions pour faire tenir d'une façon très subtile les éléments, et une impression d'ensemble qui, chromatiquement, est très différente de ce qu'on a vu précédemment. Et c'était évidemment à l'hôtel Houbeck que cet art du très grand raffinement trouvait son sommet. Malheureusement, vous savez que cet hôtel a été démoli, qu'une des façades a été préservée par démontage, donc cette façade principale jusqu'au retour de la loggia d'angle, et que ces pierres viennent d'être réinventoriées, renumérotées et réétudiées. Vous voyez le détail ancien qui vous montre déjà très bien le raffinement extraordinaire de l'appareillage. Vous voyez par exemple ce détail-ci. Et même sur les photos anciennes, on devine un traitement chromatique intéressant qu'on va voir dans un instant sur les pierres. Voilà la façade à plat, telle qu'elle a été reconstituée dans un entrepôt de la région de Bruxelles. C'est un puzzle de plusieurs centaines de pièces très difficile à maîtriser. Donc, vous voyez que, outre la pierre bleue habituelle, on a des éléments roses qui sont en fait des granites. Et on trouve en fait même une certaine subtilité dans le choix des pierres bleues. Les pierres bleues ici, c'est ce qu'on appelle traditionnellement du petit granit, peu importe. Vous voyez qu'en fait, ces panneaux-ci sont un peu plus clairs. Ce sont les panneaux qui correspondent sur les photos anciennes à ces zones-ci. Et donc, bien qu'on soit là, à la limite du deuxième niveau, Horta a choisi un matériau très subtilement différent. C'est une nuance de gris qui est à peine marquée. On a affaire à un gris qui est un gris moyen et un gris un peu plus clair. Et malgré tout, il y a un choix de matériaux qui est extrêmement raffiné. On a évidemment ces pierres à renouveau, vous les connaissez tous, mais ce qui est passionnant chez Houbeck, c'est de voir le revers de ces pierres. Et je vous aurais montré ça, vous aurez pensé directement sans doute à une sculpture contemporaine, à une sculpture moderne. Bien non, c'est simplement une évacuation d'eau. Et donc, ça c'est la face avant de ces pierres, ce qu'on percevait, qui était fermé par des grilles, et voilà la face arrière. Alors imaginez la complexité de travail, de conception et de réalisation. Évacuation d'eau à nouveau, et les granites sont traités, alors que c'est une pierre qui est extrêmement dure, comme si c'était du chewing-gum. On les tord, on les courbe dans tous les sens, on en fait des motifs très compliqués. Ça, c'était permis en fait par la pratique de l'atelier, qui est bien connue par la collection des plâtres, et on a donc dans les collections du musée Horta ces plâtres qui sont d'une part des maquettes, c'est relativement classique. On fait un objet en plus petite dimension par rapport à la réalisation, mais aussi ce qu'on appelle des modèles, qui sont en fait des objets en grandeur réelle d'exécution. Ceux-ci sont des modèles pour des éléments en métal et en bois, mais il en existait aussi pour des éléments en pierre. Et j'ai pratiqué autrefois un peu de coloriage. Bon, pour la maison Horta, vous connaissez tous. Voilà le permis de bâtir. Voilà la maison en photo ancienne. Remarquez déjà, petit détail urbain, la grande différence entre le traitement chromatique et le traitement d'appareil de la maison en tant que telle et de ses deux voisines. Il y a la pierre bleue, peu, très parcimonieux, première assise et un tout petit peu au niveau du rez-de-chaussée. Il y a un tout petit peu de granit rouge qui souligne la base de baie de l'atelier. Et il y a ce mélange de pierre savonnière, celle-ci, et Euville. Euville, chère seulement pour les endroits sollicités, savonnière pour le reste. Quand on met tout ensemble, ça fait un peu drapeau belge, je suis désolé, c'est le choix des couleurs. C'est pratiqué comme dans l'école gardienne avec de l'écoline, je n'ai pas beaucoup de moyens pratiques. Et donc vous voyez ce mélange de pierre bleue, de pierre blanche de deux types, avec les éléments métalliques et un peu de granit. Voilà la chose en réalité. Alors bon, il a fait aussi quelques réalisations en briques, peu nombreuses, comme cette maison Piron. Passons rapidement, le temps passe. Simplement un tout petit mot sur les maisons de campagne, qui sont des maisons beaucoup plus ancrées dans un terroir et qui font appel à des matériaux beaucoup plus régionaux et souvent très colorés. Maison Carpentier, avec un usage de grès coloré, et quand même des éléments en pierre bleue et des subtilités de taille, la relation entre le métal et la pierre, très importante. La maison Frison à Uccle, avec un usage aussi de matériaux rustiques. Et troisième exemple, la maison du bois, qui elle est dans une région de pierre bleue et qui est conçue en moellon de pierre bleue. Donc un effet chromatique très différent. Ça, c'était Horta à l'extérieur. Mais il y a aussi Horta à l'intérieur. Alors, après les exemples catalans qu'on a vus tout à l'heure, je dis à ma voisine, Horta va vous paraître bien terne, mais malgré tout, chez Solvay, il y a un peu de couleur. Bon, c'est pas la couleur catalane, mais enfin, je disais à ma voisine aussi, pour le moment, à Bruxelles, il fait moins 10 degrés, donc ça change. Et donc, on va retrouver une profusion de marbres extrêmement plus large et plus vaste, déjà à l'époque des marbres du monde entier. Et donc, chez Solvay, les moyens n'étaient pas limités, apparemment. Les maîtres d'ouvrage qui ne comptent pas, c'est pas fréquent, mais ça arrive. On en a mis de tous côtés. Et il y a un raffinement de mise en œuvre qui est extraordinaire. Imaginez que ces choses sont pour la plupart à l'époque encore taillées et non pas sciées. Et voyez le type de joint que Horta imposait à ses marbriers. Les matériaux sont très majoritairement des carrares, blancs et brouillés, des jaunes de sienne et différentes variétés méditerranéennes. Et chez Van Etvelt, il y a aussi un très bel usage intérieur. On entre dans un vestibule qui est à nouveau rayé, toujours cet usage de la rayure, en blanc et en rose, avec des détails qui paraissent presque baroques. Je pourrais vous montrer des exemples de grands retables d'églises baroques anversoises où on a ce même traitement du mouvement. L'usage de la mosaïque, important, et ce fameux jardin d'hiver, le grand espace central, avec un choix de matériaux tout à fait inhabituel, ce vert mousse, ceci qui est en fait un marbre des Pyrénées, c'est le campan que Louis XIV utilisait très largement en Versailles. On va cheminer ici vers l'avant, donc on monte l'escalier, on passe là-bas vers l'avant. On a des colonnes qui sont des colonnes en brèche Médicis, c'est de la brèche violette, ces colonnes-ci. Brèche de Serravezza, c'est aussi un des marbres préférés de Louis XIV. Vous me direz qu'entre Versailles et Horta, il y a des nuances, mais enfin, il y a aussi des convergences. Et on arrive dans la pièce avant, qui elle fait appel à l'onyx, matériau inhabituel, utilisé sans doute ici par ses effets de translucidité. On a quelque chose qui n'est pas brillant, mais qui est très légèrement transparent. Et le contraste entre l'onyx vert et le métal doré est évidemment très important. Et pour terminer, on passe quand même à un usage extrêmement modeste. On va passer en fait aux mosaïques qui font usage et emploi de tas de matériaux. Alors, certaines personnes dans la salle m'ont vu déjà à quatre pattes avec une loupe regarder des mosaïques parce que certains propriétaires vous demandent de donner un nom à chacun des morceaux. Donc ça c'est du rouge de Vérone, ça c'est du jaune de Sienne, ça c'est du blanc de Carrare et ainsi de suite. Les mosaïques plus modestes permettent un traitement évidemment beaucoup plus graphique et on peut trouver des compositions qui sont beaucoup plus libres que dans les sols marbriers. Donc c'était un rapide panorama coloré qu'il faudrait ancrer dans un contexte. Et pour faire une transition avec ma voisine d'après, un tout petit mot d'encart que vous connaissez. Les deux maisons sont voisines dans la chronologie. Les deux traitements sont extrêmement différents. Le traitement très coloré d'encart, le grand soubassement avec ses éléments en poudin, c'est un matériau tout à fait inhabituel. Donc, premier contraste. Et deuxième contraste, plus brutal encore, c'est évidemment Stockley, Hoffmann. Un parement en marbre de Norvège, en très faible épaisseur, 4 cm. On a récemment étudié la chose, c'est un agrafage tout à fait extraordinaire. Le parement est agrafé par des agrafes en aluminium pur. Et donc, une conception tout à fait différente. Horta étant très classique, avec un parement de pierre appliqué sur une lame de brique. Ici, un parement mince, agrafé, un cladding, qui est une peau tendue sur une structure beaucoup plus géométrique. Il veut dire que donc tout ça n'est qu'un premier état très rapide des lieux, qu'il y a plein de choses à faire. Il y a eu en son temps déjà un livre à l'époque de Ropalia Horta, je pense que c'était en 1996, mais il y a plein de sources à explorer, notamment les sources des artisans, et là donc dans les archives du musée Horta, on va trouver des données sur qui a fait ces choses, par exemple la marbrerie de Solvay et l'œuvre d'un marbrier qui s'appelle Bouquenot. Ce qui est intéressant, c'est que les Bouquenot sont une famille qui est active depuis au moins le XVIIe siècle dans la grande marbrerie. Les Bouquenot étaient des fournisseurs des cathédrales françaises et autres au XVIIIe siècle. Et donc, au début du XXe siècle, c'est un de leurs descendants, d'une tradition extrêmement riche, qui a travaillé pour Solvay. Et ce qui est amusant, c'est que ce Bouquenot, on trouve sa trace dans beaucoup d'activités archéologiques. C'était un marbrier qui était historien de l'art, à ses heures de loisirs, et archéologue. Profil tout à fait inhabituel. Et il est certain que si Horta a fait appel à lui, ce n'est pas pour des raisons de hasard, c'est sans doute pour des questions de relations et d'affinité. Donc tout ça pour vous dire que c'était simplement un éventail à peine coloré, mais qui laisse présager un feu d'artifice futur. Merci pour votre attention.